Merci, bonsoir, mais c'est un plaisir en tout cas de vous rencontrer et puis de pouvoir discuter avec Christophe Onodibio, parce que dans le fond on n'a jamais eu tellement d'occasions, on se croise comme ça dans différentes occasions, on n'a jamais eu l'occasion de parler véritablement de littérature et de traduction en l'occurrence, la traduction est évidemment un sujet qui m'intéresse en plus puisque je la pratique un petit peu comme un violon d'ingre, mais Croire au merveilleux est un très beau livre et l'histoire de sa traduction me paraît aussi extrêmement intéressante. Et j'ai tout de suite quelques questions, avant même de parler du livre, quelques questions à vous poser. D'abord, je crois que c'est pas le premier livre traduit en allemand.
Non.
Puisque j'ai vu que Die Tigerfrau.
Ouais, la birmane.
Alors c'est birmane, voilà, ouais. Je savais pas à quoi ça correspondait, ouais. Puisque le titre allemand est très différent du titre français, comme c'est le cas là d'ailleurs, puisque Croire en merveilleux et Die griechische Freundin, les deux titres sont tout à fait pertinents, sauf qu'ils prennent un aspect un peu différent du livre. Alors, parlons du titre précisément. Oui. Croire en merveilleux, c'est un très beau titre, et en même temps, c'est pas un titre de roman. C'est un titre de manifeste. C'est un titre. J'ai trouvé que c'était assez audacieux, je dois dire, de publier un roman intitulé Croire en merveilleux, parce que c'est pas un titre de roman. On aura, à la limite, le titre allemand est plus romanesque d'une certaine manière. L'ami grec, ça fait rêver, ça fait croire au merveilleux. Franchement, c'est un manifeste. Et ça, c'est assez intéressant parce que le livre, en effet, est un roman, un très beau roman, mais c'est aussi un petit peu une déclaration d'intention et un manifeste. C'est-à-dire que le personnage va être sauvé, entre guillemets, je ne sais pas s'il est sauvé, mais enfin, en tout cas, il va croire au merveilleux et ça va lui permettre de survivre, déjà, dans un premier temps. Donc, l'idée de croire au merveilleux, c'est une déclaration romanesque aussi. Parce que dans le fond, le roman, c'est quoi? La fiction, c'est quoi? Quelque part, c'est aussi une espèce de mythologie, c'est aussi du merveilleux. Je trouve que c'est vraiment audacieux dans cette période, déjà, où les fables, en gros, c'est pour les enfants, ou le merveilleux, ça fait partie de, je sais pas, moi, des accessoires un peu poussiéreux. Tout à coup, publier un livre sous le titre « Croire au merveilleux » et défendre cette thèse dans tout le livre, chapeau. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Voilà, bon, bah, déjà, sur le titre, oui. je vais pas aller plus loin pour l'instant.
Oui, bon, déjà, bon, je suis très content aussi de vous retrouver, et puis de vous retrouver, Gérard, parce que c'est vrai qu'on se croise, on n'a pas eu l'occasion de parler, comme vous le disiez, de littérature, et ça va vous faire plaisir, parce que je vais, pour répondre à votre question, faire appel à un écrivain que vous connaissez bien, parce que vous le traduisez, vous êtes son traducteur, c'est Salman Rushdie. Oui. Et justement, parce que le merveilleux Salman Rushdie, c'est
vrai, voilà. Oui, je comprends.
Alors,
bien.
Je vais essayer de répondre. Je suis très, très bavard, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des questions auxquelles je peux répondre en une phrase. Sur l'infinitif et sur le côté manifeste, je suis totalement d'accord, parce que je pense aujourd'hui que dans cette époque où la production romanesque semble être régie plutôt par les lois de soit de l'histoire, soit du vrai.
Oui,
c'est un peu voilà, mais le vrai pour moi, il y a rien n'est plus vrai qu'un roman, et Salman Rushdie pense d'ailleurs, on a pu en parler ensemble. Mais en tout cas, il faudrait aujourd'hui plutôt de l'histoire vraie, de l'histoire vécue.
Quand on met une bande sur le livre d'après une histoire vraie,
voilà,
oui,
fallait que ce soit labellisé par un saut de la vérité, mais qui serait pas exactement la vérité. Flaubert avait de toute façon tranché la question il y a bien longtemps en disant Madame Bovary, c'est moi. Quand on voit Flaubert et qu'on voit cet homme avec ses moustaches, ce solide gaillard normand, il a rien à voir avec la jeune pimpante Emma Bovary. Pourtant, il dit Emma Bovary, c'est moi. Je crois que lire, c'est pas faire ce que les anglo-saxons appellent du fact-checking, de se dire, et moi je déteste, peut-être que vous la poserez, mais je pense pas, parce que vous posez des meilleures questions, Gérard, est-ce que ça vous est arrivé ou pas, on s'en fiche totalement. Voilà, moi je pense que l'écriture, et notamment le romanesque, c'est quelque chose qui a lieu, qui disons, vit dans une sphère très très différente. Je pense qu'on expérimente de toute façon tout ce que nos personnages expérimentent. Et puis on n'a pas à le dire au lecteur.
Bien sûr.
Voilà. On fait appel à son, à son, à ce, à ses émotions, à sa soif de connaissance. Et là, j'arrive au, au manifeste. On fait avec lui une sorte de pacte. Effectivement, là, il s'agit d'y croire. Il s'agit de croire au merveilleux pour lire ce livre. Donc voilà, c'était un peu en réaction. Effectivement, là, j'aime qu'on parle de fables. Ça nous permet peut-être de convoquer aussi les manes d'Umberto Eco, de Lector oui. in Fabula.
C'est vrai.
C'est-à-dire que pour moi, voilà, c'est pas, il n'y a pas du vrai et du faux. Et puis l'authenticité, elle a lieu dans la fiction aussi. Maintenant, pourquoi ? Donc, oui, il y a cet aspect manifeste. À un moment, j'ai eu envie de jouer avec justement les croyances de l'époque. On demande aux romanciers de, en gros, de raconter leur vie. Moi, je vais raconter une fable. Peut-être que j'en ai vécu des morceaux, mais ça regarde personne d'autre que moi. Voilà. Donc, cette dimension de manifeste-là, enfin, c'est la première dimension du manifeste. Ensuite, croire au merveilleux. Le merveilleux, c'est pas le pays des licornes ou le pays des trolls ou le pays, mais c'est quand même un lien et une volonté de dire que les mythes européens, la mythologie grecque et latine, ont un rôle à jouer dans le contemporain. Pour mieux comprendre le contemporain, sont un instrument de pour déchiffrer le contemporain, pour mieux vivre dans des temps contemporains et au fond permettre une distance critique qui n'est pas loin de là d'ailleurs inutile, au contraire pertinente. Et le merveilleux, c'est aussi l'enfance qui joue un rôle crucial dans ce livre. C'est drôle parce qu'on s'est appelé ce matin avec Gérard, pour savoir, je voulais un petit peu savoir comment il allait entreprendre cette discussion. Puis finalement, il m'a dit, ben non, on verra sur le moment. Et puis c'est bien. En revanche, vous avez mentionné Gérard et vous êtes le premier à le faire. Donc, je vous
salue. Ça, je ne crois pas quand même, parce que c'est
tellement... moi, j'en parle jamais. Ben oui. Mais vous savez, j'ai un copain qui enseigne les lettres classiques, etc., qui m'a dit... mais au fond, c'est qui cette nana, cette Dita, et puis ce type à la fin, c'est quoi, c'est une réapparition de Tirésias. J'étais absolument étonné qu'il ait pas vu les films mythologiques. Parce qu'au fond, on va rentrer, puis peut-être que vous n'avez pas lu le livre ici, mais peut-être qu'on en parlera, qu'on en dise un mot, quand le livre... très vite hein, là-dessus, quand le livre commence, on est avec un homme qui est seul en gros face à la mort. Il a perdu la femme qu'il aimait, ils ont eu un petit garçon ensemble, il a congédié le petit garçon qui est chez ses grands-parents et il a décidé au fond, puisqu'il n'arrive pas à regarder ce petit garçon qui ressemble très pour très à sa mère, et le fait de regarder cet enfant qui est son fils lui le ramène du côté obscur de la force, si je puis dire. Et alors qu'il a, et la dimension théâtrale est très importante, alors qu'il a décidé de partir vers la mort en absorbant un certain nombre de petites gélules qui doivent l'emmener vraiment définitivement hors de la vie, on frappe à sa porte. C'est vraiment le Deus ex machina, j'ai voulu jouer avec cette idée-là. Et puis, très vite, va s'installer dans le livre l'idée que cette femme, donc cette jeune femme qui frappe à sa porte, qui se dirige vers sa bibliothèque, de livres, pardonnez-moi hein, Gérard,
il faut planter le décor, effectivement.
Voilà, qui se présente comme sa voisine, or il ne l'a jamais vue.
Sa voisine a 80 ans,
oui, elle a plutôt une vingtaine d'années. Il ne s'agit pas du tout pour cette jeune fille de tomber dans ses bras et qui serait un recommencement amoureux, on est dans une autre dimension. Elle se dirige vers sa bibliothèque puisque cet homme, dans cette solitude amoureuse, ne converse, en gros, puisqu'il ne peut pas converser avec cet enfant, il n'arrive pas à être un père à cause du visage de cet enfant qu'il renvoie à sa femme disparue. Il discute avec la collection Budet, c'est-à-dire la collection mythique de traduction du latin vers le français, du grec vers le français, qui avait été fondée par des anciens combattants de 14-18, qui étaient partis d'ailleurs, l'un d'eux était parti à la guerre avec l'Iliade, le grand récit de guerre par excellence, en se disant si je survis à ce conflit, je créerai une maison d'édition qui donnera aux Français une collection patriote, en
c'est
fait.
C'est une histoire formidable. Voilà, enfin, moi, je l'ignorais voilà, complètement. Voilà. C'est, ça, c'est un des intérêts du livre, voilà. Quand même. L'histoire de la fondation de cette collection voilà. Budé, c'est extraordinaire.
Voilà, donc cet homme a une conversation avec cette bibliothèque, et ses mythes grecs, tous ses livres en grec, en latin, donc bilingue, français, grec, français, latin, lui permettent de survivre dans cette époque très très compliquée. Et puis arrive cette jeune femme, qui est totalement le contraire d'ailleurs d'une a priori, enfin quoique d'ailleurs ça serait bien, mais d'une érudite, elle est plutôt bien dans son époque, en basket, et tout de suite elle se dirige vers cette bibliothèque, et on sent qu'elle connaît beaucoup de choses sur cet homme-là. Oui. Alors qu'il il l'a jamais vu, ça. Et va se nouer une relation entre eux qui s'apparente à une relation presque thaumaturgique, c'est-à-dire que cette jeune fille qui donc vit en face de chez lui dans un appartement absolument énorme, plein d'œuvres d'art, elle est grecque, ses parents sont très riches, l'ami grec, visiblement très riche, un père envahissant. Qui n'est jamais là, une famille un peu étrange, un oncle poète, crépusculaire. Et cette jeune fille va peu à peu ramener ce César du côté de la vie, grâce aux livres, grâce à l'échange qu'ils ont. Et pas du tout une relation amoureuse, c'est-à-dire qu'elle ne se donne pas à lui. Tout ça pour des raisons très très précises, qui sont des raisons mythologiques. Parce que j'ai voulu que ce livre soit lu sur deux plans. Un plan extrêmement contemporain, un quadragénaire essoré par la vie, par le deuil, retrouve espoir par cette jeune femme qui lui redonne la vie et qui finalement va lui apprendre à être un père et à renouer avec cet enfant. Et un plan, disons, supérieur, mythologique, qui est cette jeune fille qui s'appelle Nana, diminutif d'Athéna, mais aujourd'hui en Grèce, dans les rues d'Athènes, vous avez des jeunes filles qui s'appellent Asina, d'autres qui s'appellent Perséphone, Dimitra, Déméter, pareil, on trouve des bon. Et donc sur un plan contemporain et sur un plan mythologique, en semant énormément de cailloux philologiques, mythologiques dans la fiction. Voilà, c'était juste pour vous poser un peu, un peu l'intrigue. Voilà. Et pour répondre, et je termine là-dessus, l'infinitif, c'est en fait, voilà, pourquoi les romans ne seraient pas aussi des manifestes ? En fait, j'ai commencé avec Plonger, non pas les romans, mais ces titres à l'infinitif.
Encore un infinitif, oui.
Voilà. Je pense pas le prochain, parce que le prochain sera pas, en fait, ça sera pas César, ça sera autre chose. Mais après, oui, on retrouvera César. Et il y avait cette idée de Plonger. J'aurais jamais pu intituler un livre Plonger et eux, parce que ça me semblait un peu trop passif, un peu trop contemplatif. Et Plonger, il y avait vraiment l'idée d'une direction, ça fait référence aussi au plongeur de Paestum, de la fresque, on en parlera peut-être tout à l'heure. Pardon, hein, mais en fait, il y a plein. C'est très compliqué de parler d'un roman qui prend des années à écrire et qui, en fait, fonctionne pas tout en réseau.
Ah oui, il y a beaucoup de références, oui.
Et donc là, croire au merveilleux, oui, parti pris, un manifeste, une histoire, mais une histoire à laquelle, justement, il faut croire. Voilà,
pour l'aimer. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, ça va un peu à rebours du courant, du mainstream, si j'ose dire. Enfin, mais quand on regarde les références, références, des citations. Je vois Pline l'Ancien, Platon, Homère, Thucydide, Euripide. Je ne dis pas que c'est audacieux, là aussi, mais voilà un jeune homme moderne qui écrit un roman et toutes les références. C'est des références, enfin, pas toutes les références, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais les références avouées, là, le merveilleux qui permet de vivre, c'est précisément la mythologie gréco-romaine et l'Antiquité. Or, il y a quand même dans l'esprit, pas forcément de notre époque, dans l'esprit du temps, il y a l'idée que, certes, il existe des classiques, mais à partir d'un certain temps, ils deviennent un peu poussiéreux, et si vous dites que vous lisez Pline ou Thucydide, vous allez passer pour un dinosaure, absolument. Et donc là, il y a aussi de ce côté manifeste de dire, voilà, mes références c'est ça, et non seulement c'est ça, mais le fait de connaître, pas seulement de connaître, de vivre dans la mythologie gréco-romaine, de la pratiquer, ça aide. C'est pas un divertissement, c'est pas une façon de s'évader dans une espèce d'héroïque fantaisie, ça donne des clés. Et ça aide à vivre. notre époque contemporaine précisément, qui a beaucoup, beaucoup... Après tout, le merveilleux, c'est la manière dont les hommes ont résisté à la vie depuis la nuit des temps. Ils ont essayé de trouver des explications, des clés, des choses comme ça, et pourquoi les explications trouvées par les Grecs anciens ou par les Latins seraient complètement caduques. Mais il n'empêche que on a quand même, c'est une idée reçue, mais qu'on a du mal... Je vais vous faire un aveu, Christophe. Moi, vous pratiquez les auteurs classiques beaucoup plus que moi. Moi, je pas beaucoup. Je reçois en service de presse, il n'y a pas très longtemps, les œuvres complètes de Lucien de Samosate. Mm-hmm. Je me dis, il y a une erreur, là, c'est pas possible, l'éditeur s'est trompé. Lucien de Samosate, pourquoi il m'envoie ça ? Mm-hmm. Bon. Je dois dire que je ne l'avais jamais lu. Mm-hmm. Je lis, c'est formidable. Mmh. C'est formidable, parce que c'est plein d'une espèce d'humour. En plus, ça porte sur la
science-fiction,
sur
la femme.
C'est formidable. Ouais, ouais. Et alors, c'était pas tout à fait une erreur. C'est que j'ai une amie qui écrit des romans policiers. Mmh. Elle s'appelle Claude Amos, pour ne pas la nommer. Mais Claude Amos, c'est un pseudonyme. Et sous son vrai nom, Nanmari Ozanam, elle enseigne les antiquités gréco-romaines au lycée Henri IV en classe prépa. Et donc, son vrai plaisir, on peut très. Enfin, excusez-moi de faire cette parenthèse qui n'a rien à voir dans le fond.
C'est elle qui a fait l'édition, effectivement. Hein? C'est elle qui s'est occupée de l'édition de Lucien Samosate.
Elle a fait une édition formidable. Ouais. Mais Lucien Samosate, j'aurais jamais. Ouais. Je serais allé chez mon libraire demander les livres de Lucien Samosate. Ouais. Je ne sais pas déjà comment j'aurais été reçu. Moi, je pense que si j'ai un bon libraire, j'ai un très bon libraire. Mais voyez, on n'est pas naturellement porté. C'est vrai que moi-même, j'avoue, je suis plus porté vers la fiction contemporaine, vers la littérature française ou étrangère. Je ne vais pas me dire, il faudrait vraiment que je me casse une jambe pour aller lire Thucydide ou pour lire l'Iliade. C'est pas... Donc ça, je trouve aussi qu'il y a un côté presque militant, mais en tout cas très audacieux, de prendre à rebours les choses en disant, voilà, la mythologie gréco-romaine, c'est une source vivante et une source de vie extraordinaire pour notre époque et pour chacun d'entre nous, cultivé ou pas cultivé, peu importe, qu'on ait fait des études, qu'on ait humaniste en quelque sorte ou pas, ça, voilà. Ça, je trouve ça chapeau pour...
Merci Gérard, c'est vrai. Lucien de Samosate, juste pour un mot, quand vous lisez, donc oui, les belles lettres ont édité les œuvres presque complètes de Lucien de Samosate, où vous trouvez presque l'ancêtre des romans de science-fiction d'aujourd'hui.
Vrai.
C'est un romancier, on est dans le roman, on est dans la fiction, on est dans la fable, on est dans le roman d'aventure. Moi, je vous raconte juste pourquoi, en fait, ce côté militant. C'est que pour moi, le latin et le grec et la mythologie, j'ai remarqué d'ailleurs en écrivant Croire au merveilleux que Mark Zuckerberg a une sœur qui s'appelle Donna Zuckerberg, qui est une prof de lettres classiques, en fait. Une spécialiste de la littérature classique. Elle travaille beaucoup sur le genre. Et il y a toute cette réflexion sur le genre, l'androgynie, puisque vous connaissez Tirésias. Tirésias a été l'un des seuls êtres humains à pouvoir vivre dans les deux genres, quoi, masculin et féminin. Puisque vous vous souvenez de cette histoire où il voit deux serpents s'accoupler et avec un bâton il essaie de les séparer, les dieux sont fâchés. Et donc le change en femme. Et les dieux Zeus et Hera se disputant sur qui a le plus de plaisir en amour, l'homme ou la femme, font venir Tirésias. Puisque Tirésias, ayant connu les deux, ayant été homme et ayant été femme, il est capable de dire, lui, si c'est l'homme ou la femme qui a le plus de plaisir dans l'amour physique. Et bon, je ne vous raconte pas la suite, mais c'est juste pour vous donner un exemple qu'aujourd'hui, c'est de la question du genre, par exemple, on peut convoquer des exemples venant des mythes grecs et latins. Sur la question des migrants, par exemple, Maurizio Bettini, qui est un grand érudit italien, a écrit un livre où il replonge dans la fondation de Rome, où il explique, même au temps de mythique de Romulus et Rémus, Romulus faisait, en gros, disait n'importe qui venant à Rome est le bienvenu et doit apporter un peu de terre de sa terre natale. Et en fait, il y avait un endroit, une sorte de fosse à Rome où la terre de Rome se mélangeait à la terre venue, en gros, des quatre coins du monde. Tous les problématiques modernes peuvent être regardées à l'aune de cette sagesse, mais de ces textes, de cette histoire romaine ou grecque, ou de ces mythes grecs ou latins. Pas pour se dire « ils ont la solution », mais en tout cas, ces gens-là ont réfléchi, finalement, dans un autre monde, un monde qui n'est pas le nôtre, qui n'est même pas notre passé. C'est un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre. Mais il y a eu quand même une production de raisonnement, de discours, de textes. Hein. Vous citiez Lucien de Samosate. Et pour moi, ça a été tout simplement, ça c'est le côté, le versant un peu érudit, mais ça a été une école de libération, de désir, quand j'étais enfant ou préadolescent. C'est-à-dire que je vivais, c'est juste, je vous livrerai ça sur la biographie, et puis ce sera tout, mais j'étais en Normandie, il faisait très très mauvais, et puis j'ai eu une prof de grec absolument merveilleuse, personne n'avait fait de grec dans ma famille, j'étais même pas au Havre, j'étais à côté du Havre, à 10 km, donc même pas au Havre, et cette prof de grec en cinquième, donc on faisait déjà du latin, mais nous a initiés au grec. Et c'était le samedi, à la fin de la matinée, le collège était désert. Elle nous emmenait d'abord dans la salle des profs, prendre un petit chocolat, comme j'ai pris là tout à l'heure. Et puis ensuite, nous ouvrait. C'est pour ça que dans le livre, je reproduis aussi, j'ai voulu qu'il y ait du grec ancien, qu'on le comprenne ou pas, je le traduis. Mais je voulais qu'il y ait, j'ai demandé à Antoine Gallimard de vraiment imprimer, voilà, du grec ancien. J'y tenais pour un aspect esthétique d'abord, parce que quand j'étais petit, je trouvais ça absolument merveilleux. Et puis aussi, cette idée qu'à un moment, il est bon, et les enfants adorent ça, de déchiffrer une langue, même un langage, même des caractères. Il y a un côté grimoire, plairait d'ailleurs à Salman Rushdie, ça, ouais, ce côté grimoire, du grec ancien. Et ce qui faisait que j'étais là en Normandie avec quelques volontaires de la cause. Et puis, en décryptant justement ces caractères, cet alphabet qu'on ne connaissait pas, on arrivait dans un monde de légendes absolument formidable où les dieux descendaient s'amuser avec les mortels. Donc c'était une sorte de réponse aussi au monothéisme, c'est-à-dire que le cadre monothéiste explosait totalement sous cette fantaisie, cette liberté des amours de Zeus et des mortels. L'héroïsme aussi était présent, c'est-à-dire qu'on rencontrait Hector, ce qui pour moi était vraiment l'image du père, j'ai un père toujours, mais l'image du père, c'est-à-dire ce père qui part à la guerre et qui est là avec sa... Alors ça c'est une... Déjà dans Plongée j'en parlais, ce passage, le plus beau vers de l'Iliade où Andromaque, la femme d'Hector, rit en pleurant ou pleure en riant, on peut le traduire d'ailleurs des deux façons, parce qu'il est là, il va aller se battre. Elle est là avec son enfant, il va lui dire au revoir, il a son casque avec ce grand cimier, crin de cheval, et l'enfant, son enfant, a peur quand il voit son père. Et Hector enlève son casque et rit. Et rit, et c'est extrêmement contemporain. On peut reproduire ce schéma-là sur tous les terrains de guerre, de conflit. Ce père qui dit au revoir, qui va peut-être mourir, et qui a cette vie qui s'exprime par un rire affectueux, et Andromaque, qui est en larmes, rit aussi de voir son mari rire. Bon, c'est un modèle d'héroïsme merveilleux, père merveilleux, guerrier merveilleux, qui défend la cité. Bon, tous ces modèles-là, moi je les ai appris dans la mythologie. Donc pour moi, c'est une école du désir, de l'héroïsme, du civisme, de liberté, extrêmement contemporain, et j'ai jamais cessé de le porter en moi. Donc ce côté oui, je voulais à un moment payer mes dettes au monde antique, mais dans un roman. Et c'est vrai que je mets en scène une partie de mon enfance, du petit helléniste de 12 ans en Normandie, qui a eu accès au monde de la fable, au monde de la fiction, en partie, une grosse partie, grâce à la mythologie grecque et latine. Mais c'est contemporain. Et je pensais, et là, je suis très long. Je lisais aujourd'hui un livre qui va sortir, je vous conseille de l'acheter tout de suite, vous offrez ça pour Noël, qui est un livre qui s'appelle « Une histoire du monde en 100 objets », aux belles lettres aussi, de Neil MacGregor. Neil MacGregor, c'était l'ancien directeur de la National Gallery et du British Museum jusqu'en 2015. Et il a, pour la BBC, fait une émission de radio qui a eu un succès. Ça a été 14 millions quand même d'Anglais qui ont écouté ça, 18 millions de podcasts. Pendant 20 semaines, tous les jours, pendant 15 minutes, il parlait d'un objet d'art ou d'artisanat, enfin un objet des collections du British Museum. Ça allait du rhinocéros de Durer à un vase africain, une amphore justement antique, et puis un reliquaire, le reliquaire de la Sainte-Épine français. Et il prenait chaque semaine une époque, une date, 5 objets de différents continents. Et il en parlait pendant 15 minutes. Et en fait, je lui ai parlé hier, Neil MacGregor, il était en France. Il me racontait, et c'est un des chapitres du livre, donc chaque chapitre c'est de 1 à 100, une œuvre à chaque fois, puisque c'est devenu un livre maintenant. Quand le rhinocéros de Durer est fait par Durer en 1515. C'est une époque, ce rhinocéros, il est offert par un sultan indien au roi du Portugal. Il incarne, il symbolise le contact entre cet Orient lointain et l'Europe, la vieille Europe. Sauf que, quand les savants de l'époque voient ce rhinocéros vivant arriver chez eux, ils sont absolument sidérés. Pourquoi ? Parce que c'est une époque où on redécouvre l'Antiquité grecque et latine. Il y a des fouilles archéologiques. Ils relisent, ils retraduisent Pline l'Ancien. Et Pline l'Ancien parle du rhinocéros. Parle des animaux africains, etc., des animaux qui étaient de l'ordre pour les Européens de 1515, du merveilleux. C'est un animal sous Pline l'Ancien. Il y a des rhinocéros dans les amphithéâtres. Il est là, on le montre, c'est un animal qui existe. Sauf qu'en 1515, on n'a plus vu de rhinocéros depuis bien longtemps, et donc c'est un animal qui n'existe plus, si ce n'est dans la fable ou dans les textes de Pline l'Ancien. Et donc ils voient arriver le rhinocéros, et pour eux, c'est une résurgence de l'Antiquité dans leur monde contemporain. Et ça, bah c'est moi ce que j'ai voulu faire. Si l'Antiquité revenait aujourd'hui, elle se manifesterait comment ? Bah sous l'aspect d'une jeune fille de 20 ans, grecque, très étrange, qui ne se donne pas, car Athéna est là, et Athéna c'est la Vierge. Donc c'est jouer avec tout ça.
En même temps, je me disais, le fait que ce livre ait été traduit en allemand, c'est peut-être pas étrange. L'intérêt pour la mythologie, pour l'Antiquité, pour la culture classique, disons, parce que quand même, les grands philologues, de grands anthropologues, de grands l'Allemagne a beaucoup contribué, ça fait partie de la culture allemande. Elle est d'ailleurs relativement présente par certains côtés, parce qu'il y a des moments. Alors après. Il y a peut-être un défaut auquel le lecteur est poussé quand il vous lit, c'est qu'il est amené vers une espèce de délire d'interprétation. Donc je me suis livré à des délires d'interprétation de temps en temps et qui sont très certainement exagérés. Mais par exemple, de temps en temps, on ne peut pas ne pas penser à la Gradivade Jensen. Cette rencontre dans les rues de Pompéi, c'est quand même c'est la Gradiva. La Gradiva, c'est quand même, on pense au texte de Freud, on pense de qui s'est penché plus sur la mythologie comme source que la culture allemande, ne serait-ce que toute la psychanalyse repose quand même en grande partie là-dessus. Donc je me suis dit que je comprends tout à coup pourquoi ce livre a tellement plu aux Allemands et pourquoi on a choisi de le traduire. Parce que dans le fond, c'est pas très logique d'une certaine manière. Je dis pas que c'est une suite, on peut parfaitement lire ce livre Croire au merveilleux sans avoir lu Plongée. Mais c'est le même personnage, c'est la même histoire, c'est un stade suivant de l'histoire qui s'intitule Plongée. Et on peut très bien ne pas avoir lu Plongée et justement lire ce livre sans aucun problème. Mais qu'un éditeur allemand, alors je ne sais pas comment ça s'est fait d'ailleurs, peut-être le savez-vous, est-ce que c'est le coup de cœur d'une personne, de ce traducteur qui a dit « Ah ben ce livre me plaît tellement, je veux le traduire », est-ce que c'est des échanges de droits entre éditeurs, est-ce que c'est… comment ça s'est fait Mais je comprends que ça évoque un écho très important pour un lecteur allemand.
Oui, d'autant plus que Plongée n'a pas. Alors, Biermann avait été traduit, Plongée n'a pas été traduit en allemand, il le sera peut-être.
Il le sera maintenant, vraisemblablement.
Non, je ne sais pas du tout. J'ai su par exemple que pour Plongée, que l'éditeur, enfin c'était pas l'éditeur espagnol, c'était un traducteur espagnol qui avait voulu faire plonger. Non, je sais pas du tout. Là, par exemple, on le disait tout à l'heure, je reviens de Lettonie,
où il était plus. Donc, il a traduit en letton.
Et le livre, alors c'est un tout petit marché, mais le livre est premier, est plongé, est deuxième. Et le troisième, c'est John Grisham. Donc
c'est pas mal.
En Lettonie, il n'y a rien de letton là-dessus. Après, je ne sais pas pourquoi les Lettons ont décidé de traduire. Je ne sais pas pourquoi les Allemands l'ont pris. Je suis très content, très heureux. Mais vous avez raison. Et l'histoire qu'on racontait tout à l'heure sur la création de la collection Budé, donc de ces... En fait, elle est liée aussi à l'Allemagne. Parce qu'en fait, la seule édition qui existait digne de ce nom, la seule belle traduction, les seules belles traductions de l'Antiquité à cette époque-là, en 1914, c'était des Allemands. Oui. C'était des maisons d'édition allemandes. Et en fait, en 1914, un Français ne pouvait pas partir avec une traduction de l'Iliade en allemand.
Oui, il fallait
exactement. Et il le dit, il y a des textes, il y a des lettres justement de ce. J'en parle hein,
dans
Croire au merveilleux. Et parce qu'en fait, c'est ce que raconte à cette jeune grecque le personnage de César. Donc c'est vrai que l'Allemagne, alors c'est plus l'Italie, c'est plus la Grèce, c'est la Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Neil MacGregor, dont on parlait tout à l'heure, l'ancien patron du British Museum, est l'un des conseillers du futur musée Humboldt de Berlin, qui va justement, ils sont en train de réfléchir, ouvrir, je sais pas quand, mais il m'en a parlé. Mais c'est vrai que la philologie, la mythologie, les grands historiens allemands, enfin sur l'Antiquité, ils sont absolument absolument merveilleux. Mais c'est vrai que César, puisque vous en parliez, Gérard, il est en fait César, c'est le personnage depuis mon premier roman, donc qui s'appelait Désagrégé, donc lié aussi à ces études que j'ai faites. Et César avait 24 ans, mon âge, et en fait il me suit comme une sorte, je vais pas dire d'alter ego. C'est un petit peu, je dis souvent que c'est un petit peu comme dans Peter Pan, comme l'ombre de Peter Pan. Vous savez, dans Peter Pan, l'ombre peut se détacher. Oui. Parfois, Peter Pan cherche l'ombre et l'ombre vit sa vie et parfois il faut qu'il aille retourner. C'est un peu ça, c'est un peu mon ombre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il vit que j'ai vécues et puis des choses qui lui appartiennent en propre. Mais c'est vrai que j'ai besoin de ce miroir un peu déformant qu'est César. Mais voilà, on va voir si les Allemands s'intéressent à cet ami grec. En tout cas, j'aime beaucoup moi le titre de l'ami grec. Puis j'aime beaucoup le livre, là, on regarde.
Alors, il ne s'agit pas de... Oui, c'est vrai que c'était...
Griechische Freundin. Voilà. Oui. J'ai fait allemand première langue, mais j'ai tout oublié.
Oh, bah, quand même pas. Voilà. Vous êtes quand même capable de traduire le titre.
Voilà.
C'est pas trop compliqué. Voilà. Non, mais effectivement, il y a quelques références. Il y a même, si je me souviens bien, il y a une référence au Pergamon Museum.
Oui,
à un moment, il y a un certain nombre. En même temps, on est dans la Méditerranée, puisque ça se passe en Italie, sur la côte amalfitaine, et puis en Grèce. Et alors, il y a une évocation de la Méditerranée qui est absolument extraordinaire, très, très pétrie à la fois. Alors, je sais pas, ça, c'est pas facile à traduire, peut-être, mais très pétrie de références littéraire, cinématographique. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces deux beaux films. Moi, ça m'a fait penser très fort, mais alors peut-être c'est mon imagination qui dérape peut-être, mais Stromboli avec le film de Rossellini avec Ingrid Bergman qui se passe sur cette petite île, sur les petites îles éoliennes, et puis Vulcano, le film avec Anna Magnani. Qui, voilà, c'est des films extraordinaires. Et j'ai l'impression, vous les avez vus certainement, c'est pas possible, parce que j'ai l'impression qu'ils étaient présents dans le livre.
En fait, c'est drôle parce que évidemment, j'ai vu Stromboli, mais j'ai pas vu Vulcano.
Ah oui,
pas encore. Il me reste des belles choses à découvrir. Mais c'est vrai que quand on, en fait, c'est toujours très compliqué de parler de ça, mais on a des images. En fait, quand j'écris, par exemple, quand je décris cette jeune fille qui entre cette bibliothèque. Moi, j'ai pas chez moi un mur de Budé comme lui. J'ai pas une jeune fille qui entre chez moi le soir au moment où je vais pas bien. J'ai pas. Mais j'essaie de convoquer convoquer des images, en fait, curieusement. C'est les images qui viennent après les mots. Et par exemple, Amalfi, ou tout, parce que dans une première partie du livre, il entame une sorte de pèlerinage, parce qu'il est... alors là, c'est vrai, après, je me suis dit, c'est peut-être Mérimée qui revient, mes lectures d'enfance, la statue qui marchait, vous souvenez, la Vénus d'Île.
Oui, la Vénus d'Île, oui, absolument.
En fait, il est Paz, qui est donc la femme qu'il a aimée, et qui était l'héroïne de Plongée, et qui partait dans Plongée et qui ne revenait pas, ils avaient acheté ensemble, sur la côte amalfitaine, une statue représentant une plongeuse, une statue en terracotta. Et cette statue, quand elle est... En fait, ils l'ont acheté là-bas, puis elle était encombrante, donc on leur a livré à Paris, et elle a été brisée. Et la statue brisée, en fait, moi, cette statue, je l'ai sous les yeux, presque. Et cette statue brisée me ramenait à une histoire que m'avait racontée cette prof de... Non pas cette amie grecque, mais cette prof de grec. Alors, on dirait, die griechische Lehrerin, c'est ça? Ça me revient. Voilà. Ça aurait pu s'appeler die griechische Lehrerin, c'est pas mal. C'est l'histoire du symbole.
Ah, ça c'est, voilà. Alors ça c'est une belle, ça je voilà. L'ai appris, c'est une belle histoire, voilà. Ça aussi, voilà. Je la connaissais pas du tout.
Symbolon, c'est sim sun en grec, veut dire avec. Et le symbole était un morceau qui pouvait être un tesson d'argile, qui pouvait être une plaque, en tout cas quelque chose qui pouvait se briser. Et quand les gens scellaient une sorte de pacte, ou par exemple quand quelqu'un donnait l'hospitalité à un invité, quand il se quittait, il prenait ce prenons le tesson d'argile, le brisait, se donnait prenait un morceau chacun, et ce tesson d'argile se transmettait de génération en génération. Et signifier un lien entre les deux familles, un lien d'amitié. Et c'est de là que vient le mot symbole en français. Quelque chose qui est lié à une chose invisible, quoi. Quelque chose qui incarne quelque chose d'invisible. Cette hospitalité, cette amitié, elle est invisible, mais elle va s'incarner. Alors moi, j'ai voulu que ce soit cette statue, que cette statue qui avait été brisée, ça m'a rappelé cette histoire du symbole qu'on brisait et qui pouvait se rassembler quand justement les héritiers se retrouvaient. Et là, la pièce ne faisait plus qu'un. Et il y avait aussi cette idée très, très archaïque, très grecque, de réparation de l'objet. Un objet a été... On le disait beaucoup dans la religion grecque, on pouvait casser quelque chose et ça avait offensé un dieu, une divinité. Et en fait, il est tellement souffrant, mon César, qui pense ou pas est morte, qui se dit de façon très très symbolique qu'au fond, peut-être que s'il répare cette statue, peut-être que s'il retourne sur les lieux, il va avoir une réponse, parce qu'il ne sait pas pourquoi elle n'est pas revenue. Et c'est vrai que les lecteurs de Plongée me demandaient, mais est-ce que Paz allait revenir? Est-ce qu'elle les a abandonnés, elle et son petit garçon? Et je les voyais tellement en détresse que je me suis dit, il faut que je leur raconte la suite. Et puis je me suis dit, il faut que j'aille voir, c'est que je retourne voir mes héros, César, parce que il faut que je le sauve, quoi. Il faut que je le sauve, il a l'air très mal en point, ce petit garçon, je m'inquiète pour lui aussi. Et il y a l'idée de réparer, en fait. Et ça vient, c'est juste pour vous répondre là-dessus. Ça me ramène sur la côte amalfitaine, ça me ramène aux citrons. Les citrons, je pense à Gide, les pages magnifiques qu'il écrit quand il descend de Ravello jusqu'à la mer et qu'il souffre d'asthme. Et il y a ce parfum des citrons qui font vraiment ployer les branches des arbres qui les portent et qui sont gorgées de vie, etc. Ça me ramène à l'Éden. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les sensations, c'est de fournir, de donner au lecteur, à la lectrice, des sensations, des images fortes telles que moi, je les ai en tête, en fait. Et ça, c'est les mots qui vont me permettre de gorger de sensations, de faire sentir ressentir l'écume, la fraîcheur des dalles de la chambre où il était avec Paz quand il fait très très chaud et qu'il ferme justement les persiennes, comment le soleil arrive sur les draps du lit. Et ça, c'est une chose aussi que m'avait apprise, si je puis dire, ou dite, mais que j'ai voulu retenir comme une leçon, cet écrivain turc qui s'appelle Orhan Pamuk, qui écrit ce merveilleux roman qui s'appelle Le Musée de l'Innocence, et qui explique que quand il a besoin de décrire une robe de femme, par exemple, dans un roman, il a besoin de trouver cette robe de femme. Donc, soit elle existe, et c'est sa femme qui porte cette robe, ou son amie, j'en sais rien, je sais pas quelle est sa vie. Enfin, il a une femme, mais... Soit il va la chercher chez les antiquaires d'Istanbul. Et il a une image mentale de cette robe, voilà. Et ça, quand il m'a dit ça, je me dis, c'est génial, parce que je sentais ça, mais personne ne me l'avait dit encore. Et c'est vrai que j'ai envie que le lecteur, la lectrice ressente ça. Et on est dans l'ordre du symbole, mais ce symbole, il faut qu'il soit matérialisé. Si je parle d'une robe, si je parle d'un objet, si je parle d'un jus de citron, il faut que moi, j'expérimente cette chose-là. Je ne sais pas si j'aurais répondu.
De fait, c'est très sensuel. Mais non, mais voilà. Ça se sent dans l'écriture, parce qu'il y a une présence très palpable. Et il y a quelque chose aussi qui est très présent, évidemment. Le livre précédent s'appelait Plongée. Mm-hmm. C'est l'élément aquatique, c'est l'eau, c'est la plongée, la natation. Il y a tout ce beau symbole, le plongeur de Paestum.
Que j'avais pas vu, en fait, en terminant Plongée. Je ne l'avais toujours pas vu. En fait, je n'étais pas allé... C'est ça qui est génial avec les livres, c'est que ça vous permet d'aller dans des endroits qui ont été provoqués par les romans que vous avez écrits.
Ah oui.
Et donc, je suis allé vérifier aussi certaines choses à Paestum. Voilà.
Il y a les fameuses scènes, les grottes, les grottes marines, les grottes qui sont à fleur d'eau, dans lesquelles on peut pénétrer en nageant, et qui sont à la fois des images très, très, très fortes, évidemment, parce qu'à un moment, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais le personnage se retrouve, il revient dans une grotte, il a du mal à retrouver une grotte où il s'est retrouvé avec Paz, avec la femme aimée, et puis il s'attarde un peu trop longtemps dans la grotte, et il se trouve un peu menacé, enfin l'eau a un peu envahi la grotte, et il y a une espèce de nouvelle naissance, en quelque sorte, il est recraché par la terre. Alors c'est très intéressant, parce que c'est curieux ce que vous disiez, parce qu'on ne peut pas ne pas
j'aime bien sa lecture.
On ne peut pas ne pas penser au poème de Nerval, évidemment. Le El Desticado, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Vous le dites en plus carrément, mot pour mot, quasiment,
le prince
d'Aquitaine à la tour abolie, etc. Ouais. Alors, je vais vous faire une confidence. D'ailleurs, c'est un poème que je n'ai jamais compris, que je n'ai jamais vraiment étudié. D'ailleurs, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, véritablement, mais qui s'est imprimé dans ma mémoire du premier coup et que je n'ai jamais oublié. « Rends-moi le Posilippe et la mer d'Italie ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est un des plus beaux vers de la langue française, où les soupirs de la sainte et les cris de la fée.
Ouais.
Extraordinaire.
La seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie.
C'est extraordinaire. Ouais. Et là, on a l'impression, je ne dirais pas que c'est une version romanesque de ce poème, mais ce poème est au cœur du livre, constamment, parce que le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, c'est bien le type qui va essayer de mourir au début, qui est veuf, effectivement, qui est...
Oui, il y a un vers qui est pour moi un vers talismanique. Alors, j'ai rêvé dans la grotte. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Alors, comment vous dire ce qui est merveilleux dans la littérature, je ne parle pas de mon livre, je parle des livres que moi j'ai lus, c'est qu'en fait, on dit souvent que lire, c'est, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure quand vous disiez, c'est poussiéreux, le grec et le latin. Alors c'est en train de changer, hein,
oui.
Parce qu'il y a toute une vague de jeunes, justement, de jeunes spécialistes du latin et du grec, qui sont jeunes, vivants, oui. Qui aiment à la fois le rock, le punk et Thucydide, etc. C'est vraiment en train de changer. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai pas fini, d'ailleurs, quand je disais Donna Zuckerberg, Mark Zuckerberg, en fait, qui a quand même fondé Facebook, on en pense ce qu'on veut, mais il a quand même inventé quelque chose de révolutionnaire, totalement. C'est un dingue de l'Iliade et de l'Odyssée. Et au fond, je pense que c'est pas étranger. Quand on connaît ces mondes-là, on arrive à se projeter totalement dans le futur. Moi, pour moi, c'est le meilleur instrument pour penser le contemporain et l'avenir, justement. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand on lit, qu'on est gorgé de ces lectures-là, en fait, on ne vit pas une seconde vie juste en lisant. Alors, si Umberto Eco le disait, si vous voulez vivre une seule vie, ne lisez pas. Si vous voulez vivre mille vies, les livres sont là pour ça. Mais c'est qu'en fait, moi, cette grotte, je la connais. On m'a demandé en Italie où elle était. Et on m'a demandé quelle est l'adresse de l'hôtel dont vous parlez. Je dis, je vous le dirai pas parce que j'ai envie d'avoir une chambre l'année prochaine.
Ouais.
Mais cette grotte, moi, je la connais.
Oui.
Moi, je suis allé dessous, etc. puisque la côte amalfitaine est justement tapissée, si je puis dire, de grottes souterraines, sous-marines. Bon, il y a Capri, pareil.
Bien sûr, oui.
Et d'ailleurs, Capri, c'est un haut lieu de l'Antiquité,
oui, oui.
Puisque les empereurs avaient leur demeure. Bon, c'est pas Capri, c'est fini, au contraire. Il y a un autre Capri. Il y a un Capri, en fait. Moi, j'adore être dans un lieu. Comme ça, là, je suis dans cette grotte. Et en fait, qu'est-ce qui me revient en tête? Ben oui, Nerval. Qu'est-ce qui me revient en tête? J'ai l'impression, en fait, que dans cette grotte, d'autres gens sont venus avant moi. Je ne sais pas si Nerval est allé plonger dans cette grotte, mais je suis sûr que un Romain, ou peut-être même un Grec, parce que ça a été cette partie de la Grèce, c'était une colonie grecque. Hein, d'ailleurs, Paestum, c'est une colonie grecque, hein, puisque les Grecs sont partis. D'ailleurs, voilà encore une fois, l'immigration. Les Grecs, surpopulation en Grèce, partent coloniser le sud de l'Italie, se battent avec les locaux, enfin c'est très très violent. Bon, je vais pas faire de l'histoire de la colonisation grecque, mais et en fait je suis dans ces lieux-là et j'ai l'impression, alors c'est peut-être ma naïveté ou ma porosité quand je suis à Rome par exemple, mais pas seulement à Rome, j'ai l'impression que je suis là en train de dialoguer avec des gens qui étaient là avant, de l'Antiquité. Je suis sûr qu'il y a un plongeur qui a enlevé sa toge et qui allait nager dans cette grotte. Et du coup, c'est ça qui, chez moi, provoque l'écriture. C'est-à-dire que c'est pas que je me dis, je suis pas chez moi en train de dire, tiens, Nerval, c'est qu'en fait, je suis allé dans cette grotte, quand je suis allé dans cette grotte. C'est pour ça que je disais que j'aime expérimenter aussi ces choses-là et que je veux pas dire que c'est biographique ou pas, parce que, évidemment, ces choses ont été vécues, expérimentées. Et en fait, c'est que Nerval, moi, revient après ma plongée, quand je suis tout ruisselant, etc. Quand vous parliez tout à l'heure de... Je sais plus, mais c'était juste avant, là. Avant Nerval, on a parlé de quoi Bon, c'est pas grave. Quand je bois le vin d'Amalfi ou de la région, je me dis que des anciens Romains ont bu ce vin, etc. Et en fait, j'ai l'impression que les matières... les paysages, les sensations que j'ai me ramènent à ce monde-là, qui est au fond une idée que j'aime bien. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, que les mortels, les immortels descendaient dans l'Antiquité s'amuser avec les mortels, avec notamment les femmes ou les hommes, parce que Ganymède était un homme, il a été aussi enlevé. C'est que j'aime l'idée aussi que dans la vie, nos chers disparus, les morts, les gens qu'on a aimés, qui ne sont plus, continuent à vivre avec nous. Et au fond, les Grecs avaient très bien compris ça. Quand Ulysse va voir Achille, il y a cette rencontre, ce qu'on appelle la catabase, catabasis, le voyage aux enfers que Énée fait, que Ulysse fait. Ça communique, le monde des vivants, le monde des morts communique. Il y a cette page absolument magnifique dont parle d'ailleurs un romancier, Javier Cercas, espagnol, en cette rentrée littéraire, sur le livre sur son grand-oncle, parle de ce passage où Ulysse va voir, retrouve sa mère, retrouve son copain, son compagnon d'armes, Achille, qui est mort dans sa splendeur, etc. Et Achille lui dit, et c'est absolument révolutionnaire, je veux dire, ce texte-là, Achille lui dit, mais Ulysse lui dit, mais tu dois régner aux enfers, tu dois être vraiment le patron, toi, le grand Achille, tu dois régner là-dessus. Il dit, mais je préférerais être un paysan vivant, là, un homme de peu avec sa terre, etc., et son champ, plutôt que le monarque des ombres, plutôt que le roi des enfers. Et en fait, c'est une leçon, encore une fois, une leçon absolument magnifique qu'on peut prendre pour aujourd'hui. Et en fait, ce monde communiquait. Alors, c'était facile pour les Grecs, il fallait faire un sacrifice, un peu de lait, un peu de miel, un peu de sang d'une génisse ou d'une chèvre, et puis d'un mouton, et puis on communiquait, on arrivait aux enfers. J'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire que la littérature appelle la littérature. Ce que je voulais, c'est que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que je n'assène aucune référence. Gérard les voit parce qu'il est cultivé, parce qu'il connaît ça.
Il y en a que je ne vois pas, probablement aussi, mais...
Mais je m'amusais, quand je parlais tout à l'heure des deux niveaux, c'est-à-dire que j'aime que ça soit... Moi, j'avais plein de références là, et puis je me suis, dans un deuxième temps, j'ai effacé. Dans le livre, j'ai effacé des références qui étaient trop évidentes, ça, ce qui fait que même mes amis, profs de lettres classiques, mais c'est... et Nana, en fait, parce que Nana, Dita, voit pas le lien Aphrodite et Athéna, oui, qui pour moi est évident.
Crève. Elle est très présente, il y a l'histoire des chouettes, il y a l'histoire à
Fabrice. Oui, et il y a plein, voilà, il y a les chouettes. On m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de relation amoureuse physique? Je me suis dit, mais ça peut pas.
Oui.
Alors moi, je veux pas. Alors, pendant un temps, j'expliquais pas. Quand on... Alors là, en Lettonie, j'étais très content, puisque là, à la télé lettonne, la jeune fille qui était là, qui est dans la mythologie, me dit, ah, formidable. Et puis, les pépins de grenade, parce que c'est ça qui est superbe aussi, mais je vais peut-être vous endormir avec ces histoires-là, mais il y a un moment, il y a une fête. Il y a une fête puisque la famille grecque arrive. Et César est convié à cette fête de famille, donc en face de chez lui. Et puis cette famille grecque, elle est vraiment très 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 étrange, quoi. Et ils boivent du vin et puis ils ont fait passer des pépins de grenade. C'est que la grenade était un des symboles les plus forts dans l'Antiquité, et puis pour les premiers chrétiens, puisque la grenade symbolisait pour les premiers chrétiens l'église du Christ. Parce qu'il y a le côté sang, sanglant, ça, le sang du Christ, et puis ils sont liés, tous ensemble. Vous avez vu, une grenade, quand on... C'est compliqué, il y a oui. cette écorce, ces pépins qui sont là, très liés. C'était vraiment un signe de reconnaissance pour les premiers chrétiens aussi. Mais dans l'Antiquité, un des plus beaux mythes, qui est le mythe du printemps et des saisons, donc l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Hadès convoite, ça encore, c'est l'affaire Weinstein, c'est oui. MeToo, c'est exactement ça. Le vieil Hadès voit cette jeune fille, très très belle, Perséphone, qui gambade avec ses amis, désire de la posséder, il ouvre la terre en deux, elle tombe, et elle arrive aux enfers. Elle arrive aux enfers, elle reste là. Déméter, sa maman, fait la grève des saisons. Dit, ben voilà, moi je reste chez moi, ça sera un hiver éternel. C'est alors Zeus lui dit, c'est quand même emmerdant, donc il n'y a plus de récolte, il n'y a plus rien, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de blé qui pousse. Donc les hommes font moins de sacrifices, ça. Donc Zeus la convoque et lui écoute, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben ton frère aux enfers, Hadès, a pris ma fille et je veux la récupérer. Zeus envoie ses messagers, mais Hadès dit, ben non, impossible, car il a donné un pépin de grenade à Perséphone. Juste un pépin de grenade. Mais c'est suffisant. Car celui qui a mangé aux enfers ne peut plus revenir sur terre. Alors comme c'est des dieux, ils s'arrangent, ils font 50-50. Perséphone restera la moitié du temps avec son époux forcé, avec Harvey Weinstein de l'enfer. C'est l'automne et l'hiver. Et elle revient chez maman au printemps. Et l'été, et c'est la période puisqu'elle revient, et donc tout. Voilà. Et ça, je me suis amusé. S'il dîne dans cette fête, c'est uniquement. C'est un peu l'apéritif de pépins de grenade, ça, mais j'ai pas voulu expliquer. Je mets en place un DJ qui passe de la musique, etc. Je le décris comme très très féminin, avec les yeux en amande. C'est le cousin de Nana. Les yeux en amande. Il porte une sorte de sarong, comme on porte en Indonésie. Quand vous regardez les descriptions de Dionysos, c'est ce dieu de l'Orient, avec justement les yeux féminins, portant une sorte de jupe plissée, etc. Ça, je ne vais pas l'expliquer. Mais je m'amuse constamment avec ça. Mais en fait, on peut se dire que c'est une fête de famille avec un cousin DJ qui adore la musique électro, etc., qu'on mange des pépins de grenade parce que c'est très très bon, c'est anticancérigène, aujourd'hui c'est prescrit par tous les spécialistes de la santé, un verre de jus de grenade par jour, notamment pour les messieurs. Voilà. Et on peut le voir comme ça. Donc j'ai effacé toutes ces petites références, donc on peut les voir prendre un plaisir supplémentaire, s'amuser avec ça, avec plein de clins d'œil, mais on peut aussi lire au lycée, et se dire, au fond, voilà, c'est la résurrection d'un homme. Pour ça. Donc, mais moi, c'est mon plaisir, c'est-à-dire, c'est mon côté militant.
C'est voilà. Le plaisir du lecteur aussi, parce voilà. Que quand on trouve le clin d'œil, évidemment, enfin, plus qu'un clin d'œil, mais les références à Gérard de Nerval, ou à des choses qu'on aimait à Forme d'Assetti, par exemple, c'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est très amusant. Là.
Alors, je suis content parce qu'ils m'ont contacté. C'est génial, ouais. Suite à la publication du livre. Ouais. Et donc, je suis invité dans les archives de Fornacetti. Ils m'ont dit, si vous venez à Milan, Faites-nous signe parce qu'on serait enchanté de vous montrer les archives de Fornasetti. Pourquoi ? Encore une fois. Vous aviez vu, il y avait une expo au musée des Arts Déco.
Il n'y a pas très longtemps, oui.
Fornasetti voulait faire, s'occuper d'une notion qu'il appelait vraiment l'étonnement. Il disait qu'il faudrait un ministère de l'étonnement. L'étonnement, c'est une notion grecque. Thomas Zayn en grec, etc. Si on n'est pas étonné par la vie, on ne progresse jamais. Et Fornasetti a joué sur l'Antiquité, mais dont il a fait un élément de décoration qui mélangeait à des éléments de décoration totalement contemporains. Il avait compris, en fait, tout ça. Et enfin, bref, voilà.
Oui, il y a beaucoup de... voilà. Il y a un aspect, quand même, donc, qu'on n'a pas du tout évoqué et qui me paraît très important, parce que le personnage, donc le père qui veut disparaître, l'homme qui veut disparaître au début du livre, est père. Il est père d'un petit garçon qui a 6 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, qui ressemble tellement à sa mère disparue qu'il ne peut plus supporter de voir ce petit... Il aime ce petit garçon, mais il n'arrive plus à assumer sa paternité. Et il me semble que c'est aussi un livre, une des pistes très importantes et un fil rouge du livre, c'est le thème de la paternité, de cette paternité, pas impossible, mais compliquée, problématique. Je me suis même dit d'ailleurs que le personnage au lieu de s'appeler César aurait pu s'appeler Christophe, parce que Christophe c'est celui qui porte l'enfant quand même.
Exactement.
Hein, thème était très présent, pas jamais appuyé. On peut pas dire c'est idiot si je vous dis c'est un livre, une réflexion sur la paternité. Bien sûr que non, c'est beaucoup d'autres choses, mais c'est un aspect très important du livre.
Oui, tout à fait. Et là, vous parliez de Saint Christophe, et je pensais à Tournier.
Ah oui.
Qui était aussi, qui était dans cette tradition. D'ailleurs, Tournier, son rapport à l'Allemagne, parlait absolument.
Le roi des Aulnes.
Le roi des Aulnes, oui. Et Alkenig.
Il y en a plein, là. Non.
C'est drôle parce que, à chaque fois que la seule phrase allemande dont je me souviens sans faire d'effort, c'est « Ich bin der Geist, der stets verneint ». Je suis l'esprit qui est toujours nie dans Faust. Et puis dans Erlkönig, le roi des Aulnes, c'est l'histoire aussi de cet enfant. Et Saint-Christophe, Tournier avait chez lui un Saint-Christophe, en fait, un grand Saint-Christophe. Mais effectivement, oui, c'est un roman aussi qui parle de paternité, qui parle de la transmission. Et en fait, d'un homme... S'il y avait une leçon à tirer, enfin moi c'est comme ça que je me suis raconté l'histoire quand je l'écrivais, c'est l'histoire d'un homme qui est sauvé par les histoires qu'on lui racontait enfant et qui va pouvoir se sauver en transmettant ses histoires à un enfant qui est son fils et qui va pouvoir, si on va plus loin, devenir père, véritablement père, en acceptant de transmettre ses histoires dont il pouvait penser, parce que l'époque que vous mentionniez, dont il pouvait penser qu'elles étaient poussiéreuses, anciennes, plutôt opérantes dans le monde d'aujourd'hui. Et grâce à cette... Et le paradoxe, c'est qu'en fait, il découvre ça, cette possibilité de la transmission et de la radioactivité positive de ces histoires-là, qui sont les histoires, la mythologie, etc. En fait, il les découvre, il les redécouvre grâce à cette jeune fille. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension importante, oui, de transmission. Au fond, pourquoi est-on sur Terre pour un si petit laps de temps, si ce n'est pour transmettre, justement. Et ça rejoint cette idée qui fait que, en fait, les morts ne meurent pas. Ils sont là, dans les vivants. C'est aussi pour ça que, par exemple, les relations très très fortes prof-élève prennent souvent deux schémas, soit le schéma amoureux, les histoires, beaucoup d'entre nous, peut-être ici, ont aimé leur professeur, soit l'image du père et du fils, ou de la mère et du fils, etc. C'est-à-dire, en fait, on est dans l'éros à chaque fois, dans l'amour. Et c'est pas un hasard, c'est aussi... Moi, j'aime travailler aussi cette notion de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour d'un père pour son enfant ? Qu'est-ce que c'est que l'amour d'un homme pour une femme ? qu'est-ce que c'est que cet échange qui se passe entre un homme et une femme, entre la peau d'un homme et d'une femme. Enfin, pour César, ça pourrait prendre évidemment différentes formes, mais pour César et pas, c'est ça. Les peaux et les esprits et les vécus et les expériences et les savoirs. Parce qu'en fait, les sirènes dont on parlait tout à l'heure, et ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert en écrivant Croire au merveilleux. Je me suis replongé évidemment dans l'Odyssée, et c'est vrai que là on se trompe complètement sur les sirènes, puisque on nous dit toujours, d'ailleurs, dans la tradition 19e, ce sont des très belles femmes avec des queues de poisson, etc. Et chez Homère, déjà, c'est autre chose, ce sont des femmes oiseaux. Alors, c'est drôle, hein, comment de femmes d'oiseaux à tête de femme avec des serres qui lacèrent totalement leur proie, on est passé à des femmes sensuelles avec un corps de poisson, etc. Ça, il faudra une enquête. Il y a eu des thèses sur les sirènes, mais surtout, que disent les sirènes à Ulysse ? En fait, elles lui parlent de transmission et de savoir. Elles lui disent : nous savons tout ce qui s'est passé et se passera sur la terre féconde. Donc il y a cette idée féconde.
C'est le savoir absolu, oui. Voilà.
C'est le savoir absolu. Ouais. Ça, en fait, on en parle assez rarement, on dit toujours le danger, la sirène. Mmh. Ulysse, c'est le seul à avoir entendu ce chant des sirènes, qui n'est pas un chant juste envoûtant, sensuellement, etc., qui est un chant de la connaissance absolue. Que fait Ulysse ? Et Homère ne nous dit pas ce qu'il a entendu. Mais on peut se dire qu'il a entendu donc tout ce qui s'est passé et se passera sur la terre féconde. Presque le don aussi de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Que fait Ulysse ? Il est en train de rentrer chez lui. Certes, il y a quelques distractions et quelques dangers. Mais il retrouve Télémaque. Et on peut penser qu'il a transmis ce savoir-là à Télémaque. Donc c'est aussi, au fond, l'histoire d'Ulysse et du retour d'Ulysse. Ce nostos en grec, ce retour, c'est aussi le retour d'un homme, d'un père, qui va certes retrouver, on parle toujours de Pénélope et des prétendants, etc., mais qui va retrouver son fils, d'ailleurs son fils est en train de le chercher aussi, lui, pour lui transmettre ce savoir, qui est aussi son expérience de guerrier, mais aussi ce que lui ont appris les sirènes. Et en fait, la sirène est une figure de connaissance, et c'est peut-être pas un hasard si Nerval, c'est vrai que personne n'a compris ce qu'il voulait dire, mais j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, bah, peut-être pour apprendre un certain nombre de choses aussi. Donc la sirène est une figure de connaissance, et une figure de sensualité, et une figure de danger. Tout ça est assez stimulant quand on écrit.
On retrouve dans la Lorelai.
Voilà. Et d'ailleurs, en russe, le titre de Croire au merveilleux, oui. Je vais en Russie fin novembre, c'est Sirena.
Ah oui, c'est amusant.
Alors eux traduisent Sirena. Voilà. Voilà.
Alors il y a une chose intéressante aussi, c'est que il y a beaucoup question évidemment de mythologie, on a beaucoup parlé là, de mythologie grecque, ou surtout grecque, mais en même temps, chaque peuple, la première invention de chaque peuple, c'est un merveilleux, c'est un univers mythologique qui permet d'avoir un certain nombre d'explications. Alors ce qui m'a un petit peu surpris, quand vous parlez de l'accueil de votre livre en Lettonie ou en Russie, etc., je suppose en plus que ça touche aussi peut-être à des grandes vérités fondamentales, c'est-à-dire que les mythologies ne sont pas tellement différentes finalement d'un peuple à l'autre. On retrouve des points communs, je parlais de la Lorelai, à propos des sirènes, bien sûr, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on a quand même, on a beaucoup de choses communes. Alors la chose qui m'a un petit peu surprise à la fin, c'est l'épisode asiatique.
Ah oui, alors on dévoile ou pas ? Non, on ne va pas dévoiler.
Non, on ne va pas tout dévoiler, alors, c'est une belle idée, mais tout à coup on se retrouve au Japon. Alors c'est vrai qu'on est loin de la côte italienne, on est loin de la Grèce.
Comment je peux répondre sans vous dire ? Parce que c'est vraiment les dernières pages.
Pardon.
C'est l'endroit de la révélation. Mais je peux pas le dire, Gérard.
En fait. Mais pourquoi cet endroit est-il situé au Japon ?
Ça, parce qu'il existe.
Oh ben, la réalité n'est pas de la fiction. J'aurais jamais imaginé que ça existait.
Parce qu'il existe, et j'ai pas voulu le dire dans le livre, parce qu'il existe. Et que je peux même vous dire, c'est une œuvre de Christian Boltanski. Et mon propre... Enfin, oui, non, là, je vais trop... Et j'y suis, en fait, j'y suis un peu là. Les battements, les miens sont là-bas, par exemple. Ouais. Et en fait, quand je...
Oh là là.
En fait, je suis allé là-bas. Et je, ouais. Je suis allé là-bas. J'étais... non, pas en train de... J'avais pas encore commencé à croire au merveilleux. Je suis allé là-bas, retrouver ma propre trace...
Oui.
Le bruit de ma vie. Et en fait, bah on réfléchit, quand on écrit, on sait pas. J'étais pas en train de l'écrire, et je me suis dit, au fond, c'est lié à des choses là très personnelles pour moi et les gens qui me sont très très proches. Et je me suis dit que j'avais envie de mettre ça dans le livre, que ça serait la fin. En fait, la fin m'est apparue, en fait, ça serait là. Et que. Voilà, alors c'est au Japon parce qu'en fait c'est ouais, au Japon.
Parce que c'est
voilà.
Parce que c'est pas. Est-ce que voilà. Ce métier que vous faites, j'ai pas. Est-ce que ouais. Ce métier que vous faites, ce métier de journaliste justement, vous apporte non pas un matériau, mais éventuellement des pistes de réflexion, parce que je suis très frappé du fait que vous ayez cité Salman Rushdie, Orhan Pamuk, ouais. Voilà, mais dans leur façon de travailler, dans leur approche de l'écriture, ça.
Bah, ils me rassurent. Oui, oui, c'est vrai que là, j'ai la chance de pouvoir les interroger, en fait, grâce à une émission que je fais sur France Culture qui s'appelle Le Temps des Écrivains, où en fait, je m'entretiens avec un ou deux écrivains, alors quand c'est Salman Rushdie ou Orhan Pamuk, c'est une heure, en fait, rien que pour
bien
eux.
Sûr, oui.
Et c'est vrai que l'objet de cette émission, c'est de voir un peu comment un écrivain travaille. C'est une heure, donc ils ont vraiment le temps de parler de ça. Et en fait, je me suis aperçu que je doute constamment de la, non pas de la pertinence, mais c'est fragile la littérature aujourd'hui. C'est à la fois très puissant et très fragile. Salman Rushdie, lui, il dit cet art ancien. Il appelle ça cet art ancien, parce qu'évidemment, il fait référence à la fable et au...
Oui, oui, bien sûr.
J'ai retrouvé une photo de lui où il est en train de lire Peter Pan à ses deux sœurs, dont une n'est plus de ce monde d'ailleurs, où il a 7 ans, 8 ans, qui est une photo prise par son père, en fait, en noir et blanc, qui est très belle. Et en fait, oui, il me rassure, c'est-à-dire quand Orhan Pamuk dit des choses comme ça et qu'on s'aperçoit qu'on a les mêmes... quoi, les mêmes envies, les mêmes désirs un peu naïfs de toucher une robe pour la décrire, le musée de l'innocence, j'ai eu la chance de le visiter avec lui en fait.
Oui, il est allé très loin, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a constitué un musée à partir en lien avec un de ses romans. Il y a un roman de Orhan Pamuk qui s'appelle Le musée de l'innocence, et il y a un véritable musée à Istanbul qui s'appelle le musée de l'innocence, constitué par Orhan Pamuk, avec un certain nombre d'objets.
Qui est un musée des histoires d'amour, en fait, c'est oui, parce qu'il raconte, en fait, dans le musée de l'innocence, comment un homme a aimé une femme, et en fait, mais il s'est mal conduit avec elle, et en fait, il collectionne tous les objets de cette passion amoureuse. Donc, en fait, il y a, par exemple, un panneau dans le livre, enfin, dans le musée, qu'il avait tellement fait, avec 400 mégots de cigarettes. Alors, effectivement, ce sont des vrais mégots de cigarettes, mais... Parce que dans le livre, à chaque fois qu'il faisait l'amour avec cette femme, ou qu'il se disputait, enfin, bon, elle fumait, donc parfois ils avaient mangé une glace en se promenant près du Bosphore, sur les rives du Bosphore, et puis elle fumait, donc il y a un morceau taché de cerise, et en fait il a collectionné comme des vestiges de cette passion amoureuse, parce qu'il est intéressé par le vestige, et moi aussi par ce qui reste en fait. Et donc il a voulu que dans ce musée, il y ait ce panneau comme une installation d'art contemporain avec je dis 400, c'est peut-être 2000 d'ailleurs.
Oui.
Et à chaque fois, ça renvoie à un épisode du livre. Et chaque chapitre du livre est une pièce ou une vitrine, en fait, du musée. Enfin bon, c'est absolument formidable. Parce que à la fin du livre, l'amant, donc il a perdu l'amour de sa vie, mais de sa faute. Alors, c'est pas du tout comme plonger, c'est vraiment de sa faute. Parce qu'il a préféré rester avec sa femme. Et il demande, en fait, il charge quelqu'un de faire vraiment ce musée pour lui, qui serait une sorte de... C'est un mausolée, en fait, c'est une sorte de Taj Mahal romanesque, quoi. Un musée de l'amour. Mais en fait, je crois que tous les romans qui parlent d'amour sont des musées de l'amour.
Oui.
Donc en fait, quand il me parle de ça, évidemment, je me En fait, il me réconforte. Salman Rushdie m'a beaucoup réconforté quand il a dit que la fiction, qu'on était dans une époque, effectivement, où les gens avaient peur du roman, parce qu'on voulait du réel, du récit, et qu'en fait, le roman remettait de l'ordre dans le monde, et que c'était que la fiction, en fait, était vraiment un instrument pour se réapproprier le monde et pour mieux le comprendre. Et lui, et d'ailleurs, Salman Rushdie, dans son dernier livre, fait des références à l'Antiquité constante, puisque
Ah,
Pétrone, puisque ces trois
c'est
personnages-là prennent de.
Néron,
Voilà.
Pétrone, etc.
Et alors, c'est aussi les écrivains, mais par exemple, quand j'ai terminé Croire au merveilleux, beaucoup j'avais terminé, je l'avais rendu à l'éditeur, et je vais voir un film qui s'appelle La Grande Bellezza, de
Ah,
Paolo
bah oui.
Sorrentino. Et là, il y a des choses qui font écho, en fait, dans La Grande Bellezza. Et j'avais vraiment rendu le livre, le personnage, à un moment, qui est désespéré par l'époque, se voit prêter les clés, en fait, d'un musée, et de l'arpente de nuit. Et en fait, comme le personnage de. Alors, non, pas de La Grande Bellezza, c'était en 2013, et c'est Plongée qui est sorti. Et en fait, là, je suis en train de faire référence à Plongée, où Plongée, le personnage se promène au Louvre de nuit avec le directeur du Louvre, et se promène au milieu des vases grecs et des statues. Et ça, c'était un de mes fantasmes que j'ai pu réaliser, justement.
Ah, que j'ai
Voilà.
pu
C'est pour ça
réaliser.
qu'il y a beaucoup de choses qui sont
Oui.
expérimentées, évidemment. Et en fait, quand j'ai vu. Donc, il venait de sortir. Non, en fait, voilà. La Grande Bellezza, c'était Cannes 2013, donc mai 2013. Le livre est sorti en août 2013, Plongée. Donc en fait, moi, je l'avais rendu en mars, quoi. Et en fait, j'étais tellement ému de trouver chez Sorrentino un écho, et j'étais en larmes en regardant ce film, parce que c'est un film très, très mélancolique sur le monde qui va disparaître, quoi, comme dans Plongée. Et de trouver chez Sorrentino, chez un autre, alors là, c'est un cinéaste, mais cette préoccupation, ce soin. Prodigué au monde du passé parce qu'il est important pour le présent, et on ne peut pas comme ça juste se jeter dans la nouveauté et oublier tout ce que les hommes et les femmes avant nous ont fait. Et c'est l'idée aussi de croire au merveilleux, c'est l'idée que si on prend soin de quelque chose, eh bien on en sera remercié. Et cet homme-là, s'il est sauvé, si cette jeune fille arrive, etc., et c'est aussi ça le merveilleux. C'est peut-être parce que, au fond, il a pris soin de ces choses-là. Donc, c'est ce savoir-là, ces dieux-là, ce paganisme-là, peut-être décide de venir sur la terre pour prendre soin de lui, parce qu'il va. C'est pour ça que je parlais de Deus ex machina aussi.
Voilà. Mais c'est vrai que
Et,
c'est.
mais l'interprétation appartient au lecteur, comme toujours. Et c'est ça qui est bien.
Les
C'est un roman.
interprétations, en plus, je
Les
dirais, parce que c'est un
interprétations,
livre qui est
oui.
tellement riche qu'on a tiré quelques fils comme ça, mais après, ce sont des interprétations plus ou
Après,
moins
ça a l'air d'être un
personnelles.
télo comme ça, mais
Non, non, c'est pas. Oui, c'est
c'est
ça,
d'abord le plaisir de
c'est le
l'histoire
plaisir
aussi, hein.
romanesque,
Voilà.
c'est un livre très.
Voilà.
Une belle écriture, c'est très, très sensuel, on voyage beaucoup, on a l'impression de se retrouver sur la côte italienne, de se retrouver en Grèce, enfin, c'est tout à fait. C'est merveilleux, là aussi, et on en sort tout à fait à la fois. C'est un livre qui fait réfléchir, mais qui donne aussi une espèce de force, semble-t-il. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très revigorant et magnifique. Ben, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques que vous voulez faire, mais
En tout cas,
on a
merci hein,
beaucoup
Gérard pour
parlé.
cette lecture. Et non, j'aime bien,
Mais
voilà,
c'est un grand
trouver
plaisir.
quelques-uns des indices, c'est pas mal.
Bon,
C'est pas mal.
alors tout le monde est d'accord. En tout cas,
Voilà.
je vous en conseille vivement la
Ouais,
lecture,
ouais.
soit en allemand, soit en français, selon vos préférences. Mais ce n'est pas tout à fait un hasard, d'ailleurs, si le livre est tellement traduit un
Oh,
peu
c'est
dans
bien, je
toutes
suis
les langues,
content.
c'est
Je peux
que peut-être
voyager grâce à
ça
lui,
touche. Ben
donc.
voilà, ça permet de voyager, puis
Je devais
ça
aller en
touche.
Chine,
Ah, ben c'est
et
tant
là je
mieux.
peux pas y aller à cause du travail là.
Parce
Voilà.
qu'il est traduit en chinois aussi.
Ouais, là et ouais.
Comme quoi, le merveilleux n'a pas de
Bah, les
frontières.
Chinois, oui, Plongée a eu un prix. La traduction de Plongée a
Ah
eu un
oui.
prix de traduction d'ailleurs.
Ah bah
Voilà. Et
c'est
je devais
formidable.
rencontrer mon traducteur là à Wuhan, qui est une ville moyenne de 18 millions d'habitants,
Oui, c'est pas
et je ne
mal.
peux pas y aller.
Bon.
Parce que là, bon, voilà, je peux pas aller partout et je suis très triste.
Bon, vous ne vous plaignez pas.
Non, mais voilà.
C'est pas mal de voir. Merci en tout cas, Christophe Daudibio, et bravo pour
Bah, merci,
avoir
merci à
trouvé.
vous, Gérard. Merci beaucoup. Et bravo
Merci
pour cette
beaucoup.
Traduction de Rushdie. La prochaine traduction, c'est quoi
là? Eh ben, c'est le prochain Rushdie. Ça va être au printemps, mais pour l'instant, je ne sais rien de.
Vous avez le texte déjà, ça y est.
Ah non, non, je ne sais rien. Le texte, je l'aurai au mois de mars. Mais je ne sais ni le titre, ni le contenu, ni rien du tout pour l'instant. Voilà. Donc, ça sera une découverte. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup.
Merci.